Bonjour. J'aimerais vous parler ce matin d'un mot de la Bible. On l'a déjà employé ce matin, c'est un des mots certainement les plus utilisés dans la Bible. Vous avez une idée? Non? C'est pas loin. Mais... Il y avait un chant spécialement où on l'a prononcé plein de fois ce mot. Pardon? Oui, la grâce. On utilise beaucoup ce mot dans la Bible, la grâce. 170 fois. Pas mal, hein? Vous savez quel est le mot le plus utilisé dans la Bible? Exactement, c'est le mot « et ». C'est une stat, hein, c'est tout. Ça ne veut rien dire. On parle de la grâce dans la Bible, on parle de la grâce dans la Bible de différentes façons. Ce matin, c'était ciblé ce qu'on a parlé. Mais dans la Bible... Il y a vraiment différentes applications du mot « grâce ». Peut-être vous allez être surpris, peut-être. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors, je vais lire beaucoup, beaucoup de versets. Aujourd'hui, si vous voulez les notes, je pense que je les mettrai sur le site directement parce qu'il y a beaucoup de références qui sont intéressantes. La première fois où on parle de la grâce dans la Bible, c'est le synonyme d'attrait, de charme, de beauté. Gazelle pleine de grâce, dans les Proverbes. Des fois, plus difficilement. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Proverbe 31-30. Et puis encore, on sait que quand on parle du Christ, quand on parle de la jeunesse du Christ, on nous dit qu'il croissait en stature et en grâce. Donc on s'attache là surtout à un détail physique. Le mot grâce est pris pour une définition physique. Deuxième chose qu'on apprend dans la Bible encore, la grâce, c'est la bienveillance, c'est la faveur, une expression hébraïque très fréquente, une idée très employée dans la Bible, avec la notion de trouver grâce aux yeux de quelqu'un, avec des situations très curieuses. Dans 2 Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8, les églises de Macédoine ont instamment demandé la grâce, vous savez quelle grâce? De pouvoir participer à une collecte. Hein? Ça nous étonne, hein? La grâce de pouvoir, le privilège, la faveur de pouvoir participer à une collecte pour aider les croyants. C'est aussi le mot grâce, bienveillance, faveur. Un peu plus fort... Encore, dans la dénomination du mot grâce, la notion de bienfait, de bénédiction. Nous avons reçu grâce pour grâce. Jean 1,16. Ou encore, toute grâce excellente, tout don parfait descende d'en haut. Jacques 1,17. Et puis, il y a encore l'idée de remerciement, de gratitude. D'où viennent directement les expressions « action de grâce », donc « rendre grâce », 1 Timothée 2,1. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. » Ou encore la notion de « rendre grâce ». Moi, c'est un truc que j'ai mis, quand j'étais enfant, j'ai mis des années à comprendre pourquoi papa disait « maintenant, on va rendre grâce ». Bon, on avait toujours dit que la grâce, elle était donnée par Dieu. Pourquoi il fallait rendre la grâce? Je ne comprenais pas quand j'étais tout petit. Rendre grâce. La notion de rendre grâce. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, dira Paul aux Romains, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Ou encore, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. D'ailleurs, le mot Eucharistie, appliqué à la scène, fait précisément allusion aux actions de grâce de Jésus au début des repas, précisément. Matthieu, Marc 8, verset 6, « Il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. » Dans l'Ancien Testament, la grâce était déjà prédite, annoncée par les prophètes. Un Pierre, il fait allusion, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, à vous maintenant, ont fait ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Dans la notion biblique, la grâce se trouve exprimé dans la pure bonté de Dieu qui nous aime, qui veut notre bien, notre bonheur, qui que nous soyons, quel qu'ait été notre comportement. Ézéchiel 18:23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt ? Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit Dieu ? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Sous la loi de Moïse, l'homme devait finalement être justifié par son comportement, ses actions, son obéissance à la loi. Ce n'était humainement pas possible à cause du péché ancré au-dedans de l'être. C'est pourquoi Dieu laissera d'emblée entrevoir qu'il choisit Israël sans aucun mérite de la part de ce peuple. Et on trouve ça dans le Deutéronome. Moi, j'aime beaucoup ce texte parce qu'il me ramène justement à pourquoi Dieu m'a parlé un jour. Ce n'est pas parce que vous surpassez, il le dit au peuple d'Israël, hein, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Israël, c'était des peuplades, des groupuscules, on dirait un petit peu ces nomades dans le désert. Mais parce que l'Éternel vous aime, sachez donc, Israël, enfant de Dieu, que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Petite parenthèse. Nous sommes le 11 septembre, jour de commémoration et de recueillement dans le monde entier. Journée qui nous rappelle surtout le début d'une période de violence où, au nom de leur Dieu, des groupes d'individus vont commencer à prêcher l'intolérance, le rejet, la haine, et n'ont pour tout avenir que la mort et la disparition de ceux qui ne pensent pas comme eux, et finalement aussi aller à leur propre mort. Comment la religion, comment Dieu, le Créateur, pourrait-il avoir comme vision et projet pour sa création uniquement le chaos et la violence ? Non, non. Dieu est le Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Amen. 14 fois dans l'Ancien Testament, on trouve cette phrase pratiquement complète et intacte. Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. 14 fois, on trouve cette phrase complète dans l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Exode, Dieu dira à Moïse, « Je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde. » À qui je fais miséricorde ? Cette grâce, donc, vient finalement totalement de Dieu. Et nous n'y sommes pour rien. Pas plus que le peuple d'Israël de recevoir cette bénédiction comme son peuple. Les sacrifices sanglants de l'Ancien Testament, annonciateurs de la croix, accordait provisoirement aux croyants la rémission des péchés et la purification du corps et de l'âme par toute une série de rites. Mais David le vivait pleinement et savait qu'il touchait là au bonheur et aux promesses des prophéties promises par Dieu. Psaume 31, verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Et David savait de quoi il parlait. Heureux l'homme dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Vous savez, j'ai à la maison une traduction, la traduction biblique Chouraki, vous connaissez, traduction qui est faite par un juif. Et le mot iniquité, il appelle ça la Torah. La non-obéissance à la Torah. Et que la Torah est restée tellement enfermée dans une loi fermée qu'il fallait appliquer cela, que pour finir, c'est devenu l'iniquité pour les croyants. Ça m'a frappé. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Je t'ai fait connaître, dit David, mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. La loi avait été donnée par Dieu à Moïse pour le bien du peuple, mais le salut, par grâce, est venu en Jésus-Christ pour la vie de tout homme. L'Ancien Testament ne pouvait que promettre ou anticiper ce que la manifestation vivante et visible de la grâce de Dieu en Jésus-Christ allait rendre réel et définitif. De Corinthiens 8, verset 9, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que en sa pauvreté, vous soyez enrichis. » La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. C'est à la croix, et à la croix seule, qu'éclate pleinement la grâce salvatrice de Dieu. C'est celle dont nous parlons ici le plus souvent à l'Église. Mais cette grâce n'est pas le seul effet de la miséricorde de Dieu. Son amour, sa sainteté, sa justice devaient aussi être révélés à la croix par cette grâce. Pour cela, il a fallu ce sacrifice expiatoire. Jésus a été abaissé, mais nous le savons, il est ressuscité et maintenant nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Afin que par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour nous tous, pour nous tous. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous péché. Et nous sommes tous initialement privés de la grâce de Dieu. Mais tout comme le peuple élu de l'Ancien Testament, Dieu nous aime. Nous n'avons pas de nous-mêmes accès auprès de lui. Dieu avait dit à Moïse, on l'a lu, « Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Et Paul le rappelle bien aux Romains, « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Cela dépend de Dieu. Nous n'avons rien à voir là-dedans. La grâce de Dieu est accordée gratuitement aux pécheurs. C'est Dieu qui la donne. À chacun. À chacun, c'est possible. Elle peut être accordée à tous les pécheurs. Il faut juste reconnaître pour cela qu'on est pécheur et accepter de saisir cette main tendue par Dieu. C'est par cette grâce que Dieu nous justifie et nous voit totalement innocents à ses yeux. Non-lieu. C'est un non-lieu. Où est l'accusation? Où sont ceux qui t'accusent? Il dira à la femme près du puits. Où sont ceux qui t'accusent? Il nous voit blanc comme la neige. Ici, on sait ce que c'est que la neige. Il nous voit blanc comme la neige. Mais pas la neige qui reste au bord de la route après 15 jours de papettes. Non ? Pas la soupe, non. La neige, la vraie, qui tombe. Suite à notre foi dans le sacrifice de son Christ pour nous, comme victime expiatoire. Il nous voit blanc comme cette neige quand on ouvre les volets le matin. C'est cette doctrine du salut par la foi en Christ seulement que des gens comme Martin Luther, comme Jean Calvin et les autres réformateurs ont si magnifiquement découvert et remis en lumière, tout près d'ici à Genève aussi, au début du XVIe siècle. À Dieu seul nous devons, aujourd'hui nous aussi, d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est pourquoi il est à plusieurs mentions, plusieurs endroits, plusieurs reprises fait mention du don de la grâce. Cette grâce qui nous est donnée. Nous avons la paix avec Dieu, Romains 5, 1, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Éphésiens 2, versets 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par vos œuvres. Il y a un garde-fou afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas de nos œuvres, mais c'est pour qu'on ne se glorifie pas en disant « Moi, balèze, j'ai obtenu la grâce tout seul. » Non, c'est Dieu qui l'a donné. Il n'y a pas beau faire de la muscu, là, ça ne fonctionne pas comme ça. Cette grâce de Dieu, ce cadeau royal, ce don pour notre vie, ne peut se recevoir que dans l'humilité. Que dans l'humilité. C'est Dieu qui est devant. La Bible ne dit-elle pas que Dieu fait grâce aux humbles ? mais qu'il résiste aux orgueilleux. C'est une phrase qui est choc, ça, parce qu'elle va à l'envers de notre monde. Elle est totalement à l'envers. Elle bouleverse, c'est une autre économie. On n'est pas dans notre système. Elle nous invite à nous humilier sous la main puissante de Dieu pour qu'il puisse nous élever, il est dit dans la Bible, au temps convenable. Ben, on serait bien embêté pour juger quel temps est convenable, nous. C'est au temps convenable pour Dieu, au temps qui plaira à Dieu, au temps qui conviendra à Dieu. Les effets en nous de cette grâce sont complets et inimaginables, à tel point qu'on peut aisément dire qu'elle est le Seigneur agissant en nous pour nous sauver. Et elle va provoquer en nous une foule de choses indispensables à notre vie chrétienne, dont je vous en donne brièvement quelques exemples. Évident, souvent. Il y en a d'autres, mais je vais enlever cela. Elle nous apporte d'abord le plein pardon de nos fautes. Le plein pardon de nos fautes, de toutes nos fautes. Il n'y a pas d'exception. Nous ne sommes plus pécheurs à ses yeux. Dieu ne nous voit plus pécheurs. Il nous voit comme son propre fils. Plus condamnés, libres, libérés. La grâce, deuxième point, nous rend à la vie, nous rend la vie. Et ce matin, c'est ce qu'on a dit, on était mort, mais on est revenu à la vie. La grâce nous rend cette vie, c'est cette grâce de Dieu qui nous rend la vie. Justifiés par sa grâce, nous devenons en espérance héritiers de la vie éternelle. Titre 3, verset 7, héritiers de la vie éternelle. Nous sommes adoptés par Dieu. On l'a souvent dit ces dernières années, on l'a travaillé à l'étude biblique. Cette adoption de Dieu qui nous donne un statut encore de fils privilégiés, adoptés par Dieu. Mis au rang des héritiers de la gloire éternelle. Est-ce qu'on a conscience de ça? Est-ce qu'on est mis au rang des héritiers de la gloire éternelle? Héritiers de la gloire éternelle. J'essayais de réfléchir ce que ça pouvait dire, mais c'est difficile. Hein, mais quand on est en train de louer et qu'on est touché par cette gloire, on est héritier de ça. Cette gloire, elle est éternelle. Avec un encouragement pour chaque jour, parce que c'est difficile de gérer ça derrière. Et cet encouragement, c'est là où le péché a abondé, c'est-à-dire là où vous étiez, dans le plus profond de vos péchés, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Et ça ne veut pas dire que plus on pêche, plus il y a de la grâce. Non, ça veut dire qu'au plus profond, au plus noir du péché, où on était, la grâce a encore une lumière plus forte que ce péché-là. Un autre point important, la grâce nous rend capable de mener une vie simple, saine, équilibrée aux yeux de Dieu. Même et surtout si elle ne l'est pas aux yeux de notre monde, cette vie, parce qu'elle est à l'envers, on l'a vu. C'est une vie qui, pour notre monde, est une folie. Des fois même, parfois à nos yeux, elle est peut-être une folie aussi, mais c'est la vie que Dieu a prévue pour nous. De Corinthiens 1, verset 12, « Ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout, à votre égard, dira Paul, avec sainteté et pureté devant Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, donc une sagesse de ce monde, mais avec la grâce de Dieu. » Avec la grâce de Dieu. Cette grâce... Aussi, elle affermit notre cœur. Elle nous apporte, pour toute notre vie, une dynamique. Une dynamique qui va nous mettre en action. Qui va mettre en action deux ou trois choses, notamment la consolation. La consolation de tout. Et une espérance d'éternité qui n'a pas d'égal. À quel endroit on peut trouver une espérance d'éternité comme l'espérance d'éternité dans la grâce de Dieu? 2 Thessaloniciens 2, verset 16, « Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance consolent vos cœurs et affermissent et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Ce que Dieu nous réserve, c'est ce qui est bon. Bon à ses yeux, imaginez-vous. Imaginez comme ça que ça va être bon pour nous, si c'est bon aux yeux de Dieu. Enfin, dernier point, mais il y en a tellement d'autres. La grâce donne aux hommes la capacité et l'envie, la nécessité même, de servir les autres. De servir, j'ai pris ce mot, leurs congénères, c'est-à-dire les personnes qui sont autour de nous, en fait. Toutes les personnes qui sont autour de nous. Ce que Dieu mettra sur notre chemin. On dit notre prochain dans certaines paraboles, notre prochain, un mot curieux. Mais celui qui est proche de nous, oui, celui qui est proche de nous, qui croise notre chemin. Elle nous rend utile, cette grâce, aux yeux de Dieu, mais aux yeux de nos frères et sœurs du monde, nos frères et sœurs de l'Église. Elle est une force en marche dans le plan de Dieu, où chacun a non seulement sa place, mais aussi et surtout son rôle à jouer. Et là, j'aimerais vous interpeller chacun et nous interpeller. Si nous ne prenons pas notre place dans le plan de Dieu, et si nous ne jouons pas le rôle que Dieu nous confie, personne ne va le jouer à notre place. Personne ne va prendre notre rôle. Et la conséquence, c'est que nous nous appauvrissons nous-mêmes et nous appauvrissons aussi la communauté que nous privons de quelque chose que Dieu nous a demandé de partager avec. C'est important. Réfléchissez au rôle que Dieu vous donne. Si vous ne prenez pas la place que Dieu vous a donnée, si je ne prends pas la place que Dieu m'a donnée, je m'appauvris, j'appauvris la communauté, j'appauvris l'Église, j'appauvris le monde à quelque part. Je ne fais pas, je ne suis pas honnête avec moi-même et je ne suis pas conséquent. C'est important à s'en rappeler tous les jours de notre vie. 1 Pierre 4, verset 10 et suivant, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages. » On a parlé à l'étude biblique l'autre jour, savoir si on était dans la fin des temps. Hein? Et quand ça commençait, quand ça finissait, c'est pas facile hein, à définir. « La fin de toute chose est proche, nous dit Pierre. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un ardent amour. Car la charité couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, nous dit Paul. C'est-à-dire, pas dire, zut, faut encore que je prenne du temps pour inviter celui-là puis discuter avec. Non, dire, ouais, c'est super, tu viens manger à la maison. C'est deux façons de le dire. Mais qui sont tout à fait différentes et qui changent le regard. Et le dire avec un sourire, c'est beaucoup plus facile, ça aide. D'abord, ça détend plus de muscles, puis ça fait du bien au cœur aussi. Et surtout, ça fait du bien au cœur de l'autre. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres. Le don qu'il a reçu, au service des autres, le don qu'il a reçu, la grâce qu'il a reçue de Dieu. De tels bienfaits sont si nombreux que le croyant ne peut rien désirer de plus beau, de plus enrichissant, de plus, tout simplement. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les épîtres, on trouve 31 fois dans le Nouveau Testament, 31 fois, la phrase « Que la grâce soit avec vous ». 31 fois, « Que la grâce soit avec vous ». Frères et sœurs, puissions-nous croître et croire en cette grâce, la comprendre, la rechercher, l'apprivoiser, l'intégrer dans notre vie. À tel point que nous entendions Dieu lui-même nous murmurer à l'oreille, « Ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. » Alors il aura atteint son but, montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ à la louange de la gloire de sa grâce. J'aimerais finir par ce texte d'Éphésiens 1 au verset 4. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés par son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse chacun. Je crois que ce beau verset de Corinthiens, d'Éphésiens 1, verset 4, c'est ma prière pour chacun de nous aujourd'hui. Et je veux le relire comme pour une prière. Je vous invite à prier. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen.
Merci pour ce que nous avons reçu ce matin. C'est important de recevoir de notre Dieu. Je partage avec vous les annonces que je vous laisse découvrir à l'écran. Il y en a beaucoup. Mardi, nous avons les cellules. Donc la cellule de Gex va se retrouver chez Didier Loredane. La cellule de Prefsin, j'imagine, chez Emmanuel et Rebecca. Et la cellule de Collonges se retrouve chez Pierre et Déborah. Vous avez vu sur le programme, samedi, on a la retraite du conseil. Alors c'est important aussi que vous priez pour le conseil, pour ce temps qui est pris, qui est mis de côté pour préparer l'année. Dimanche prochain, on a un culte de baptême. Ouais, c'est tout en bas de l'écran, hein, mais c'est bien d'actualité. Donc on aura le plaisir de baptiser Joy, Ève et Johanna. Ouais. Que Dieu vous bénisse dans vos décisions à chacune. Qu'il vous garde aussi pendant cette semaine, qu'il vous remplisse aussi de son esprit. Alors, le culte de baptême sera suivi d'un apéritif dînatoire, donc c'est important déjà de venir, évidemment, et puis de prévoir de rester. Et puis, ce qu'on vous propose aussi, c'est d'amener des choses à partager pour l'apéritif, principalement du salé, mais aussi, pourquoi pas, un petit peu de sucré. Les boissons seront là. Pas de souci. Par contre, on vous invite, donc il y aura déjà une base qui sera préparée par les familles, mais c'est vrai qu'on sera nombreux, et donc on vous propose de compléter ce qui sera amené par les familles par ce que vous pourrez amener vous-même. Et puis ensuite, tu peux mettre le deuxième écran, Rémi. Voilà, quelques dates à se rappeler ou à se remémorer, à avoir bien en tête. Pour la fin de l'année, le week-end du 1er et 2 octobre à Champange, donc au-dessus de Thonon et Évian. Alors il y a un panneau au fond de la salle pour s'inscrire. C'est important de s'inscrire parce qu'on sera en hébergement complet. Donc il faut vraiment qu'on sache exactement qui c'est qui vient pour qu'on soit bien accueilli. Je crois que toutes les informations sont sur le panneau, je vous laisse les voir. Voilà. Donc la fête de Noël a été déplacée. Elle était prévue le 3 ou 4 décembre. Et puis la mairie a été d'accord de déplacer la réservation sur la grande salle Gaston-Laverrière Et puis donc, ce sera le samedi 10, vraisemblablement. Voilà, donc c'est important de le prévoir pour être là, quoi, puis pour partager tout ça ensemble. Juste vous rappeler de prier pour Floriane, qui est repartie donc dans la région de Lyon avec Jem. Pensons encore à Roland. Roland est toujours en attente de son rendez-vous qui maintenant se rapproche, mais c'est quand même long. Suite à ses problèmes de cœur, donc Roland aura un rendez-vous vendredi prochain, le 16, donc auprès d'un cardiologue à l'hôpital de la Tour. Voilà, donc prions pour que ce cardiologue soit conduit, soit guidé par notre Seigneur, et prions aussi que Roland soit gardé dans la paix. C'est pas facile d'attendre quand ça dure, maintenant ça fait plusieurs mois. Donc voilà, pensons bien à lui. Alors, je sais pas, est-ce que j'aurais oublié une annonce? Ça se pourrait, non? Sinon, cette semaine, on vous invite, comme chaque semaine, à prier pour un pays dans lequel il y a de la persécution. Alors, on vous invite cette semaine à prier pour le Sri Lanka. Alors, le Sri Lanka n'est pas numéroté, parce que dans l'index 2016, il est après les 50 premiers pays. Je vais vous montrer où est le Sri Lanka. Voilà, c'est ici, au sud-est de l'Inde. Mais dans le Sri Lanka, c'est toujours pas simple d'être chrétien. Donc pensons à nos frères et sœurs chrétiens dans ce pays et prions pour eux cette semaine, tout particulièrement. Sinon, je vous invite à vous lever. Je partage encore avec vous un verset. Psaume 13, verset 6. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Amen.